Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Attroupement des fonctionnaires de l'État devant les banques. Comment améliorer les services bancaires pour éviter ce genre de situation? On en parle aujourd'hui avec Alki Tengue, économiste et stratège. Alki Tengue, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez le 099 706 99 41. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Pierre Diassinois, à la mise en onde, Tati Mapoukou assure la coordination de cette émission. Feza Bongonda, à la réalisation au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute de cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiookapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiookapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiookapi.net.
Bien, encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien. Voilà, spectacle désolant, chaque fin du mois, on retrouve il y a l'attroupement des fonctionnaires de l'État devant les banques de Kinshasa et même dans d'autres villes. Et certains arrivent même très tôt le matin avant l'ouverture des banques pour attendre. Voilà, ils viennent pour être payés et parfois certains font des tours, ils passent 3 jours à la banque sans être servis, ils restent là-bas pendant des journées. Alors parfois il y a des problèmes, on dit qu'il y a des problèmes de connexion d'internet ou il y a faible rechargement de l'argent au niveau des distributeurs. Voilà, tout ça, ça ralentit les opérations et puis les gens attendent dans des très très mauvaises conditions au niveau des banques à Kinshasa et ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, n'est-ce pas, les services bancaires et l'accès aux facilités bancaires? Comment mieux organiser les paiements des agents, des fonctionnaires de l'État au niveau des banques à Kinshasa et à travers le pays? On en parle avec notre invité, Alki Tengue, économiste et stratège. Alki Tengue, ravi de vous retrouver encore une fois dans cette émission.
Plaisir partagé.
Vous avez certainement constaté ce qui se passe au niveau de l'attroupement des fonctionnaires de l'État, au niveau des banques. Alors d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer tout ça?
Et moi j'ai le plaisir de temps en temps photographier cela et mettre ça sur mon statut.
Oui.
Et la raison pour laquelle je fais cela, c'est une manière pour moi de pouvoir interroger notre intelligence collective. Parlant de notre intelligence collective, je voudrais revenir à il y a 10 ans quand on a bancarisé les salaires des fonctionnaires. Mmh. Il y a eu 2 choses qui ont été faites. La première, c'est de dire on va renvoyer les fonctionnaires dans les banques et on va payer les banques pour assurer la paye. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, le gouvernement a décidé en ce moment-là, en toute intelligence, de concéder les services de la paye aux banques. Et du coup, que moi j'habite Massina ou que j'habite Lemba ou que j'habite la Gombe, je vais là où se trouvent les agences de ma banque. Ça sous-entend qu'en fait, j'ai une offre très limitée des endroits où je peux aller toucher mon argent.
Oui.
Ce que ça veut dire aussi...
Parce que les banques n'ont pas des succursales un peu partout.
Toutes les banques n'ont pas des succursales partout. Mmh. Et les gens ne sont pas nécessairement envoyés dans une banque qui a une succursale à côté de leur maison. Et donc, il y a manqué une intelligence sociale dans la résolution du problème. Pourtant, à l'époque déjà, les technologies existaient pour faire les choses différemment. La première, c'est que l'employeur des fonctionnaires de l'État, ce ne sont pas les banques, c'est l'État lui-même. Mmh. Et donc, la personne qui doit payer ces gens, c'est l'État et pas les banques commerciales. Mmh. Les banques commerciales sont des intermédiaires. Vous savez, au tout début, on a connu un problème très simple, c'est que même le rapport de paye, les banques commerciales devaient le faire pour être en mesure d'informer l'État de qui a été payé et qui n'a pas été payé. Et vous vous souviendrez très bien qu'il y a eu cette affaire de déperdition de plusieurs millions de dollars qui n'étaient pas finalement payés et que les banques commerciales gardées par DVRL jusqu'à ce que ça commence à provoquer un scandale. En fait, tout ça démontre l'incapacité de l'État à pouvoir faire ce qu'on appelle le schéma critique pour être en mesure d'atteindre avec satisfaction les fonctionnaires. Qu'est-ce qui est technologiquement faisable ? Technologiquement faisable.
D'abord, c'était qu'est-ce qui avait motivé la bancarisation de la paie.
Ah oui, bien sûr, la fraude
des fonctionnaires.
La fraude, parce que vous vous souvenez de l'affaire, l'ancienne affaire des comptables d'État qui disparaissaient avec des montants. Mmh. Mais il n'y a pas que ça, mais il y a aussi que finalement
on payait les fictifs,
on payait tout ça. Énormément d'effectifs et on espérait beaucoup qu'avec la bancarisation, on arriverait à réduire ce qui a été fait, mais de manière très limitée, parce que encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a énormément d'effectifs et quand l'argent ne sait pas aller chez des agents effectifs, l'argent reste effectivement dans les banques. Et donc, toute la question, c'est 10 ans plus tard, le plus simple, c'est de s'interroger et dire, est-ce que ça a marché? Si la réponse est oui, mais le mais veut dire, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment on le change? Et les technologies donnent énormément de solutions.
Mmh. Oui. Mais pourquoi ces attroupements? Pourquoi les gens doivent venir à 5h du matin pour attendre devant la banque jusqu'à 8h, 8h30 pour être servis?
Parce que les banques n'ont aucune motivation de s'occuper de ces petits épargnants. Simplement. Et donc, personne ne vérifie ni la qualité, ni l'effectivité, ni l'efficacité du service rendu à ces gens. La proposition est la suivante et elle est très simple. La banque centrale garde un pool d'argent qui est censé être donné qui est censé servir à la paye des fonctionnaires. Elle le garde dans un compte. Et on donne à toutes les banques le droit de payer n'importe quel fonctionnaire qui arrive et qui est identifié. Ça sous-entend qu'un fonctionnaire arrive soit avec sa carte, soit avec son visage, soit avec son
empreinte. C'est quoi, il y a des listings qu'on envoie?
Non, pas du tout.
Comment ça se passe?
Et aujourd'hui, tout est digitalisé. Ça veut dire que c'est une gestion de base de données. La base de données positive reste avec la banque centrale et avec l'argent. Et les banques commerciales sont toutes connectées à la banque centrale. Mmh. Et donc, quand quelqu'un arrive, ça se passe exactement comme quand vous allez dans une agence de Western Union. Quand vous arrivez, vous avez un code. Dès que vous avez donné votre code, l'argent vous est donné et en compensation, l'agence qui vient de vous donner de l'argent est payée plus les commissions. Et je voudrais vous dire que pour chaque agent de l'État payé, la banque reçoit $3
par agent
payé. Ça sous-entend que c'est largement bien payé lorsqu'on regarde les quantités. Si la banque centrale donnait la capacité à toutes les banques de servir n'importe quel agent parce que identifié, vous avez un numéro unique et donc si une banque vous a payé, vous êtes soustrait de la base de données positive de la banque centrale et donc plus personne ne peut vous payer. Et ça, c'est une organisation que l'on a avec Western Union, on peut l'implanter très facilement avec la banque centrale et les banques commerciales. Ça permettra que chaque agent aille là où il est le mieux servi, de préférence le plus proche de chez lui et de préférence chez les banques qui s'activent pour être en mesure de payer. Aujourd'hui, la paresse des banques est justifiée par le fait que qu'elles fassent bien le travail, qu'elles ne fassent pas bien le travail.
Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Contrôle,
et l'État n'a même pas la capacité de savoir à quel moment et combien les gens ont été payés, effectivement, et quel est le comportement. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas de données. Alors que si elle gardait la base positive et qu'elle était l'agent payeur, par excellence, mmh, elle aurait l'information sur la cartographie de l'exercice de la paye et de l'effectivité des services rendus par les banques commerciales. Et donc, ici, c'est juste une petite question de technologie.
Bien. Alors, dans certaines localités où il n'y a pas de banque commerciale, c'est Caritas qui assure la paye des fonctionnaires de l'État.
De la même manière, Caritas devrait être en mesure de travailler, devrait être en mesure de travailler exactement de la même manière, avec des terminaux de paiement, avec des tablettes en mesure de pouvoir payer et être payé en automatique au fur et à mesure que il est en train de payer. Aujourd'hui, avec Caritas, la simple difficulté, c'est que Caritas lui-même n'a pas ses propres fonds, ce qui fait que malheureusement, on est obligé de lui donner des fonds et Caritas est obligé de le transporter des fois sur des motos en prenant des risques. Mmh. En fait, la situation de Caritas, c'est le dernier kilomètre et ça pose toute la question de l'inclusion financière. Au bout de 20 ans, aujourd'hui, le taux de pénétration du service bancaire est encore à 4,5%, ce qui est totalement inacceptable. Dans les licences bancaires, ils ont l'obligation de faire ce qu'on appelle la couverture nationale afin d'assurer l'inclusion financière. Vous savez, ce qui est facile à faire, c'est de dire, on met tout ça sur une bonne cartographie et on regarde les déserts bancaires. Et en ce moment-là, on dit, on a 20 banques, on divise le désert bancaire en 20, au lieu que tout le monde aille au même endroit, que les banques aient l'obligation, parce qu'elle est dans le cahier des charges, de pouvoir s'occuper des différents endroits qui ne sont pas couverts par des services financiers. Et ça, ça réglerait la première étape importante pour être en mesure de disponibiliser les moyens financiers dans les milieux qui ne sont pas couverts. Et aujourd'hui, le PDL 145 est une opportunité pour que, un, la Banque centrale elle-même ouvre des succursales partout et que elle aspire les banques commerciales au moins à ce niveau-là. Et ça, c'est écrit dans la licence bancaire, celle que la Banque centrale donne aux banques avec l'obligation de se déployer sur toute l'étendue de la République. Et tout le monde sait que c'est financièrement difficile. En ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de regarder le désert et être en mesure de diviser le désert par le nombre de banques qu'il y a et que chacune prenne une petite partie. C'est de cette manière que nous pourrons être en mesure d'avoir des services avancés dans le secteur bancaire.
Bien, nous parlons de l'amélioration des services bancaires afin d'éviter l'attroupement des fonctionnaires de l'État chaque fin du mois. C'est le même spectacle que nous vivons. Clément nous appelle des Kananga. Bonjour. Clément, vous êtes à Kananga, bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Ok, merci, monsieur Dodi. Je salue les intervenants.
Bonjour.
Ici, au Kassai Central, précisément à l'agence exécutive des CDC, la même situation que les fonctionnaires de l'État pleurent chaque jour. C'est-à-dire, il y a l'engouement, même les enseignants qui sont payés par la carte Caribou, comme le fournisseur des cartes Caribou, la mission a été déjà finie. C'est pourquoi ici on a bloqué la carte Caribou. On nous a donné une autre carte que les agents de l'État n'ont pas encore eu. Il y a même les gens qui, les fonctionnaires de l'affaire sociale, des affaires sociales et les fonctionnaires de l'État, les directeurs de la science qui est le coordonnateur des...
Oui, Clément, on vous écoute. Dommage, il n'est plus là, il est parti. Omar Kigalo de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi, bonjour à l'invité.
En vous écoutant.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Nous avons tous applaudi la bancarisation avec tous les avantages qu'elle a été à citer. Mais ça fait très mal. Moi, je commence par les constats malheureux liés au complexe, la manière dont on traite les agents. J'ai été une fois dans une banque, je suis pas fonctionnaire, je suis allé faire une autre opération. J'ai vu la manière dont on vénère les ministres, le député, ou quelqu'un bien habillé, et on fait asseoir des vieilles mamans sous le soleil parce qu'elles sont agents de l'État. Cette façon de faire m'a bloqué, j'ai même crié à la banque. Dans une banque, l'accès aux services doit être identique. On ne peut pas favoriser tel parce qu'elle a des gardes-corps, alors qu'il y a des gens qui sont là depuis 9 heures. Ça, c'est le premier constat malheureux, les mauvais traitements des agents de la banque. C'est comme s'ils viennent vous demander l'argent alors que c'est leur droit. Deuxième constat, comme l'a dit l'attroupement. Troisième constat, c'est les monnayages des services. De quoi l'invité devait aussi l'évoquer. Donc, si un agent veut être payé à temps, il donne un petit rien au policier qui l'aligne rapidement, paye à temps. Voilà pourquoi nous sommes en train de dénoncer ces constats malheureux qui doivent être changés. Est-ce que ces désordres sont liés à l'inexistence des banques? Parce qu'on a d'abord un problème bancaire au Congo. Non seulement il n'y a que la banque centrale au niveau congolais, il y a plusieurs étrangers qui investissent, il n'y a pas assez de banques. Monsieur l'invité, est-ce que c'est pas la première cause, l'inexistence ou la quasi-inexistence des banques au Congo? Deuxième question, n'y a-t-il pas moyen de décentraliser la banque centrale? J'ai lu lorsque je suis quelqu'un qui modifie à ses jours, qui oblige à la banque d'avoir des décentralisations, c'est-à-dire des succursales au niveau de chaque regroupement territorial, c'est-à-dire district, et au niveau de chaque province. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas fait alors que c'est une recommandation bancaire. Est-ce qu'on ne peut pas procéder par cela? Troisième question, parce qu'il est expert en économie, avec cette nouvelle technologie de mobile money, est-ce qu'on ne peut pas commencer à payer des...
Allô? Voilà. Quelques soucis au niveau de la communication, la liaison téléphonique. Voilà. Il y a sa dernière question à porter sur le mobile. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à utiliser la messagerie financière pour le paiement des salaires des fonctionnaires de l'État? Bien, on va accueillir Jerry Mido depuis Kikwit. Jerry, bonjour. Jerry, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Non, c'est pas Jerry, c'est bienvenu.
C'est plutôt bienvenu. Merci, bienvenue. Quelle est votre question?
Oui, oui. Moi, j'aborderai la question. Tout d'abord, j'aimerais saluer Alkitling. C'est aujourd'hui un honneur pour moi de débattre avec lui. J'aborde la question de la même manière que Maître Romain qui venait de passer. Je suis un ancien banquier. Aujourd'hui même, je venais de passer à une agence de la place pour effectuer une opération. Je n'ai pas pu le faire parce qu'il y a un monde fou. Même pour trouver la porte de l'agence, c'est vraiment tout un problème. Je crois, c'est vrai que nous pouvons déplorer tout ce qu'il y a. Il n'y a pas assez de banques dans nos milieux, mais je crois les institutions bancaires, s'ils mettaient vraiment du sérieux pour qu'ils investissent dans la messagerie financière, parce que un agent de l'État peut faire l'opération même dans un coin de la rue, ce serait, je dirais même pas finir la question tout entière, mais au moins diminuer la peine des fonctionnaires. J'ai vu comment est-ce que les vieux papas peinent. Il n'y a même pas de l'ombrage, il n'y a même pas quoi, mais les gens sont sous le soleil depuis le matin. Moi, je n'ai pas supporté, je suis rentré. Ouais, comme ça, pour un petit rien, les gens doivent prendre autant de jours, autant de temps pour qu'ils touchent leur vie. C'est pas du tout respecter les agents de l'État. Si les banques de leur côté mettaient un peu s'investir pour que la messagerie financière soit partout où les gens peuvent facilement faire les retraits. Je crois que cette situation va trouver un peu de solutions. Voilà, merci. Je vous dis bonne journée.
Bien, merci Jerry. De Kikwit, Al Kitenge, à vous la parole.
Merci beaucoup. Je vais commencer par Clément du Kasaï Central, qui parlait d'Equity BCDC. Moi, dans ce qu'il dit, je retire deux choses. La première, c'est le fait que les gens vont perdre du temps pour retirer leur argent ou accéder à leur argent, le temps qu'ils auraient bien pu utiliser pour travailler pour l'État. Mmh. Et donc, quelqu'un devrait s'inquiéter, c'est l'employeur de ces gens, l'État. Au lieu que les gens soient au travail, ils perdent du temps à attendre ce qu'ils auraient dû par mois.
Toute une journée ou deux.
Et vous imaginez des dizaines, des milliers de personnes qui perdent du temps, c'est la compétitivité de l'État qui est engagée.
Et ceux qui vont retirer au niveau du distributeur, il y a des problèmes de connexion.
Et il évoque une question de monétique, en fait. Mmh. Je crois simplement qu'aujourd'hui, la monétique se déploie chez nous sur trois piliers. Le premier, c'est les distributeurs automatiques. Le deuxième, c'est les terminaux de paiement. Ça veut dire quand vous allez dans un supermarché, vous pouvez utiliser votre carte et payer. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle les agency banking. Ça veut dire les agents bancaires. Les banques se déploient dans les commerces et vous pouvez donc accéder à votre argent dans les commerces. Il est important que cette question devienne une stratégie pour que quelqu'un qui a sa carte puisse aller à la station d'essence, parce qu'il y a du cash à la station d'essence, être à mesure d'accéder à son argent. Et je pense que ça doit être, j'ai envie de dire, démocratisé, et ça devrait être l'initiative de l'État pour être à mesure de travailler avec les banques commerciales. Moi, j'en appelle beaucoup à ce que moi j'appelle les états généraux du service aux employés de l'État. Ça devrait mettre en place les syndicats des agents, les banques commerciales et la banque centrale qui représente l'État pour être en mesure de discuter de la question. On ne peut pas l'ignorer éternellement. Je pense que c'est une question réelle. Mmh. Omar pose une question de la qualité des prestations des agents envers les agents de l'État. Il a l'impression qu'ils ne sont pas respectés. Il évoque même des questions de monnayage. Encore une fois, dans le monnayage, c'est de la corruption. Il y a les corrompus et les corrupteurs. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Et je suis radical là-dessus. Mais par contre, je peux comprendre que les gens se fatiguent et se disent « je fais l'irrégulier pour être en mesure d'être servi et que je parte d'ici ». Encore une fois, ça vient du simple fait que la qualité des services rendus par les banquiers n'est pas mesurée et donc l'État n'a pas la capacité de se plaindre avec des faits à l'appui. Ajoutez à cela, des fois, l'État demande aux banques commerciales de payer avant de lui reverser l'argent nécessaire pour être en mesure de le faire. Et donc, de ce point de vue-là, les banques font un petit peu les jambes lourdes et le font de manière à pousser l'État à pouvoir régler la question. Mais je crois que, du point de vue professionnel, ce n'est ni acceptable ni bon parce que la victime, ce n'est pas l'État en ce moment-là, c'est le
c'est
citoyen.
Le fonctionnaire
donc,
de l'État,
au cas où la banque commerciale dit que je ne peux pas payer parce que je n'ai pas encore reçu les fonds, elle n'a qu'à dire je ne paye pas. Au moins, c'est clair, les fonctionnaires de l'État vont savoir qu'ils doivent s'adresser à leur employeur. Mmh. Alors, moi, je pense, et je l'ai dit tout à l'heure, que la Banque centrale elle-même devrait suivre la nouvelle vision du chef de l'État, celle de se déployer au plus près des citoyens, c'est déjà aller dans les 145 territoires. Et si la Banque centrale se déploie dans les 145 territoires, il devient assez facile de demander aux banques commerciales, selon l'algorithme que je vous ai proposé tout à l'heure, pour qu'on soit en mesure de donner un service public universel. Mmh. Et je crois que c'est une obligation pour nous d'assurer qu'on a une inclusion financière qui atteint le citoyen là où il est.
Faut-il recourir à la messagerie financière pour payer les fonctionnaires de l'État ?
Ce que vous appelez messagerie financière, c'est en fait la délocalisation du point de paiement. Et aujourd'hui, les banques commerciales ont ce qu'on appelle les agents bancaires. Ça veut dire que tu peux aller dans un supermarché ou dans une station d'essence qui est connectée à la banque et tu as exactement les mêmes services. Toute la question, c'est qu'il faudrait démocratiser cela. Et je peux vous dire que les gens qui vendent du carburant, ça les arrangerait beaucoup de pouvoir se délester du tas de billets de banque qu'ils sont obligés de protéger s'ils pouvaient avoir la possibilité de pouvoir les donner aux fonctionnaires de l'État ou à tout autre client des banques commerciales. Mais en fait, ça doit être quelque chose qui est pensé, qui est structuré.
Bien encadré, oui.
Et c'est pour ça que je pense que les états généraux de la paie, de la fonction publique, devraient pouvoir poser toutes ces questions sur la table.
C'est ça même que le mobile banking ou c'est différent?
Non, le mobile banking, c'est la capacité à faire des opérations bancaires en restant chez soi. Par exemple, à partir de son téléphone ou de son ordinateur ou de sa tablette. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la banque pour aller demander le solde ou pour aller vérifier si quelqu'un vous a payé. Vous pouvez le faire sur votre outil et ça vous permet, lorsque vous êtes sur un téléphone, de le faire de manière mobile où que vous soyez.
Et une chose est-ce que les fonctionnaires peuvent recevoir aussi leur argent par M-Pesa ou Airtel Money ou
et en fait aujourd'hui les banques commerciales ont créé des nouveaux outils qui permettent aux gens eux-mêmes de prendre leur argent de leur compte et de l'envoyer sur un portefeuille électronique qu'il soit Airtel Money, Orange Money ou M-Pesa. Et encore qu'il faudrait que ces personnes d'un certain âge soient techniquement outillées pour être en mesure de pouvoir, de manière sécurisée, transférer leur propre argent. Mais le plus simple, c'est le agency banking. Ça veut dire qu'en fait, que l'État, je veux dire les banques commerciales, travaillent avec les différents détenteurs de cash en journée pour être en mesure de pouvoir servir ces vieilles personnes qui n'ont pas nécessairement la capacité de travailler sur de l'Internet et des plateformes qui peuvent leur paraître sophistiquées. Mais l'État a une autre chance aujourd'hui, c'est la Poste. La Poste est présente partout. Et les points de présence de la Poste peuvent être utilisés comme des agences bancaires. L'État peut être en mesure de créer un portefeuille entre les mains de l'État, de la Poste, pour être en mesure d'accueillir de manière connectée les services aux différentes banques. Et donc la présence de la Poste, qui est en fait l'élément le plus avancé de notre administration, peut permettre que les services soient avancés aux citoyens. Et comme vous le savez, la banque, la poste a énormément d'équipements de sécurité, des coffres forts. Et donc, où qu'elle soit, elle est capable de rendre des services, y compris aux banques commerciales, avant de devenir elle-même un opérateur bancaire. Et après, notre ami Bienvenu, que je remercie d'ailleurs pour son compliment, il parle de l'affluence. Encore une fois, la solution, c'est la digitalisation. Mais encore une fois, la digitalisation sectorielle, ça veut dire chaque banque commerciale a sa propre stratégie, ça embrouille les consommateurs. C'est pour ça que j'en appelle à une discussion tripartite entre l'État, les banques commerciales et les fonctionnaires pour être en mesure de mettre cette question sur la table et décider de comment, au mieux, on peut être en mesure de servir.
Il n'y a jamais eu d'évaluation, vous l'avez dit, depuis que...
Non, ça fait une dizaine d'années, on a commencé, et tout ça se passe au détriment des fonctionnaires de l'État.
Bien, on va accueillir Jérémy Do de Kikwit et Malonga de Bandonouville. Nous parlons aujourd'hui de l'affluence des fonctionnaires de l'État au niveau des banques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'accès aux services bancaires? Jérémy Do, bonjour.
Oui, bonjour. Je suis aussi à Bandonouville. Je ne suis pas à Kikwit, mais un bon sujet. Je remercie d'abord l'invité. Je vous salue en passant. Bon, nous ici à Bandundu, je peux dire, nous avons quelques banques commerciales qu'on peut citer, TMB, Afriling, Equity Bank là. Donc, ces deux banques, Equity Bank et Afriling, c'est pour les enseignants ou bien les gens qui se trouvent à l'extérieur du pays ou bien à l'extérieur du province comme ça. Mais pour nous, la TMB à Bandundouville, c'est des catastrophes. Je ne sais pas, c'est une banque commerciale. À peine, on vient de fermer ses banques. La DGRAT a scellé ses portes de TMB. Donc les gens ont beaucoup souffert pour payer. Est-ce que ces banques ont beaucoup de garanties pour nous? C'est ça ma première question. Et puis la deuxième question que je peux poser à l'invité. Est-ce que le système de PPL mobile, c'est un système qui garantit les gens? Quand je dis ça, pourquoi? Parce que si vous avez reçu les messages du PPL mobile, vous partez chez quelqu'un qui vous donne l'argent au PPL mobile. Cet argent-là vous demande votre numéro de téléphone et le mot de passe. À chaque mois, vous partez toujours sur ces messieurs-là. Vous savez notre Congo. Est-ce que ce système, c'est bien? Parce qu'il peut vous pirater aussi. Un jour, vous partez comme ça, déjà votre argent a été viré chez quelqu'un. Est-ce que ce système de PPL mobile, c'était un bon système? Merci, je vous remercie. C'est Jérémy de Bandundouville.
Bien. Malonga, vous êtes aussi à Bandundouville. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à l'invité et à tous ceux qui nous suivent.
Quelle est votre question?
Bon, je vais commencer. Oui, je vais commencer d'abord à satisfaire mon confrère Jérémy Don. Bon, pour la banque à la TMB, bon, c'était leur problème vraiment en rapport face à l'État. Si elle avait quelques litiges là-bas, c'est sa main. Actuellement, c'est bien. Nous sommes très servis. Là, il n'y a plus encore de problème. Bon, pour le PPL, c'est ce que l'invité va répondre. Bon, moi, je vais ajouter de ce que mon frère vient de dire. Ici, est-ce que là, le système de bancarisation, en tout cas, ça a été vraiment salutaire pour les fonctionnaires. Et pour les autres, c'était vraiment frustré. Mais c'est salutaire pourquoi? Puisque partout où vous êtes, vous allez recevoir votre argent. Mais faire sortir ça, c'est un sérieux problème pour certains fonctionnaires qui ne sont pas vraiment dans des grandes vraiment agglomérations. Par exemple, ici, là au bureau de paye là-bas, ou bien au bureau de budget, ils se trompent souvent. Ils affectent les agents, par exemple, d'ici à Bandundouville, ils sortent à Kikwit. C'est un grand problème. Il y avait les agents d'ici de Bandundouville. C'est plus si, je ne sais pas si des deux, ça, si les trois, ça. Ils étaient sortis de différents services, ils étaient sortis à Kikwit. Bon, à Kikwit, là, il y a EcoBank. Mais ici à Bandundouville, il n'y a pas l'EcoBank. Et tous étaient sortis à l'EcoBank. Aujourd'hui, je vous dis, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Tous les agents qui reçoivent l'argent de l'EcoBank d'ici à Bandundouville, en tout cas, je ne sais pas. Bon, pourquoi là, ils ont la liste des banques, la liste des villes de la RDC. Ils savent que cet agent, c'est agent de Bandundouville. Pourquoi ils peuvent être orientés dans une ville où ils ne travaillent pas? Ici, à Kikwit, pour arriver à Kikwit, il faut payer plus de 300 000 francs congolais.
Donc cela veut dire que...
280 000.
Oui, Malonga, cela veut dire que chaque mois, les fonctionnaires de l'État, ces fonctionnaires doivent quitter Bandundouville pour aller percevoir leur salaire à Kikwit.
Oui, mais il y avait une solution palliative que EcoBank a fait, a négocié avec les catholiques ici, Ecclesia. Bon, par Ecclesia des catholiques, bon, ils sont servis de là. Bon, pour être servi, par exemple, ce mois de juillet, tout le monde est déjà servi. Mais ceux qui sont à l'EcoBank de Kikwit d'ici, ils ne sont pas, ils attendent peut-être les 15 pour que leurs agents soient virés de Kikwit à Ecclesia d'ici à Bandundouville. C'est faire souffrir les gens. C'est faire souffrir les gens qui font un service à l'État. Pour affecter les gens, il faut savoir que non, ces agents, ils restent dans une ville. S'il n'y a pas une banque, ou bien il y a d'autres façons de les faire affecter que de nous faire souffrir comme ça. Un salaire de quelqu'un va être perdu seulement pour au moins des transports. Il paye de ça 50 000. Il touche là, 280. Bon, pour retour, il va recevoir quoi? C'est rien. Bon, pour arriver ici, les 15, avec le système de banques Lambert, il se trouve vraiment dans une déficit vraiment agréable.
Oui,
en tout cas, je dis, et l'invité là, il peut nous aider pour plaider pour nous, que en tout cas, ces noms-là soient affectés. tantôt à Finlande, Rao Bank ou bien Tembe, les banques qui sont ici en ville. Merci
bien.
Beaucoup. En tout cas, c'est ça la plaidoirie que je lance à l'État congolais. Merci beaucoup.
Merci Malonga. Comment améliorer l'accès aux services bancaires, éviter l'attroupement, l'affluence des fonctionnaires de l'État devant les banques? Justin Kalabia, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour aussi à notre invité.
Quelle est votre question, Justin Kalabia?
Merci beaucoup Monsieur pour la pertinence en tout cas de la thématique. Je pense que ouais, la paix des agents à la banque est devenue un casse-tête. Le système bancaire commence à décevoir Monsieur Jody et tout petit. Et donc pas plus tard Monsieur Jody. La paye passée, Monsieur Jody, à Bounia, et il y avait un homme à tenue militaire qui était décédé au niveau de la BCDC, Equity, Monsieur Jody. Moi, je me demande, quand un militaire parvient à mourir, Monsieur Jody, à la banque.
Et pourquoi? Qu'est-ce qui était à la base de ce décès?
Mais, Il c'est à cause, Monsieur Jody, quelqu'un fait une semaine, il part, on dit qu'il n'y a pas la connexion, on dit que non, il patiente, il n'y a pas les cash, donc, et puis, il passe une nuit sans manger, et il se retrouve fatigué, jusqu'à ce que Monsieur Jody, il a rendu l'âme. Moi, je me demande, est-ce que vraiment, dans ce pays, nous avons un État qui prend toutes ses responsabilités? Alors, à cela, j'ai une question, Monsieur Jody. Ma question est celle de savoir pourquoi les paiements ne s'effectuent pas sur base des départements et à temps réel. Et pour terminer, Monsieur Jody, je pense que dans des grandes villes comme Bounia, Goma, Bukavu et Kisangani, sont des grandes villes de l'Est, Monsieur Jody. Mais pourquoi, quels que soient les enseignants, quels que soient les militaires et policiers, et autres fonctionnaires, pourquoi Monsieur Jody, quelqu'un peut passer toute la journée à la banque attendre son paiement ou son salaire? Voici seulement ma suggestion et mes questions, et bonne journée Monsieur Jody.
Bien, merci. Comment améliorer l'accès aux services bancaires? Roger Marcel, vous êtes à Kinshasa, hein? Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à notre invité.
Quelle est votre question?
Je pense bien que notre invité nous explique quand même des choses qui sont vraiment valables. C'est en République démocratique du Congo, en pleine 21e siècle. Je pense qu'on pouvait quand même évoluer dans le système technologique. Si vous regardez la République démocratique du Congo par rapport à d'autres pays, au côté de la nouvelle technologie, les choses avancent. Vous constatez que presque à la fin de chaque mois, où vous voyez toujours les fonctionnaires de l'État qui passent, qui perdent même les temps, vous voyez même les autres, de 5 jours à 10 jours pour avoir leur argent. Mais aussi longtemps qu'on pouvait quand même avoir un peu ce système-là, que chaque travailleur puisse avoir sa carte bancaire. Lorsqu'on arrive à la fin de chaque mois, on puisse directement virer son argent dans son compte, et puis les travailleurs pouvaient avoir quand même la facilité de passer à la banque avec sa carte et retirer l'argent facilement. Mais ce qu'on déploie, on va à la fin de chaque mois, c'est un paiement-là. Et l'État a évité un point qui est vraiment intéressant, avec un système de notre gouvernement a fait avec les 145 territoires, on pouvait employer toutes les banques partout pour que notre État puisse aider le fonctionnaire puisse avoir un paiement de l'argent.
Parce que d'accord, si merci, gens, merci beaucoup Roger. Merci Roger Marcel. D'accord, merci Roger de Kinshasa. Elvis, vous êtes aussi à Kin, bonjour.
Bonjour, merci la journaliste.
Quelle est votre question?
Ouais, la question était peut-être, parce qu'il disait pour une des, comment équilibrer, peut-être ça va toujours dans le même sens. Je voulais donner un témoignage de ce qui se passe chez nous. Par exemple, peut-être chez nous au Sankourou, la banque se trouve à Lodja, dans le territoire de Lodja. Mmh. Et quand mon père travaillait à Wembonyama, dans la nouvelle ville de Lumumba, la Lumumba ville. Oui. Alors, c'est la Caritas qui ravitaille. C'est la caritas qui ravitaille. Alors, ça peut, comme les mois ici, ça peut être même les mois ici et les mois prochains, les gens ne sont pas encore payés. Il faut attendre jusqu'à tel point la voiture de la caritas va quitter l'Odia pour aller payer les gens. Et tout le monde sait, quand ils comprennent seulement qu'il y a la voiture de caritas qui arrive, c'est-à-dire tout le monde sait que l'argent est entré au village ce jour-là ou dans la cité.
Oui.
Alors, vous comprenez un peu, on voulait un peu peut-être, chercher à faire que tout le monde se retrouve même avec l'argent. Il sait que c'est ça ici, je donne comme hier, ici à la Tembe, ma tété ici. Les gens, comme on commençait à renvoyer les gens pour aller commencer à chercher là où ils peuvent trouver les PPL mobiles. Parce que je suis à la Prince, on m'a dit, Elvis, pardon, tonton, où est-ce qu'on peut trouver PPL mobile? On vient nous envoyer de la banque là-bas, il faut chercher PPL mobile. Vous comprenez que ça, je ne sais pas, c'est à quel niveau que cela peut arriver à ce niveau. Il y a des gens qui sont arrivés depuis le matin, des Saint-Terre. Il va rentrer peut-être à 18h, cette fois même prendre son argent. Est-ce qu'il n'y a pas autre manière, peut-être, même comme l'invité, j'ai copié l'aide des invités, avait parlé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen même de passer même bas de paiement par M-Pesa, Orange Money, même par d'autres réseaux pour faciliter un peu, même ces gens qui sont au fond, s'ils ont un compte M-Pesa et qu'ils reçoivent de l'argent directement de leur compte, je pense que ça peut faciliter aussi la tâche. Voilà ce que je voulais comme contribution donnée à l'émission.
Bien, merci à tous les auditeurs pour toutes ces interventions. Al Kitenge, vous avez la parole.
Merci beaucoup. C'est très agréable de discuter avec le citoyen réel, celui qui est au front. Mmh. Et je commence par Jerry de Bandundu. Une des questions qu'il a posées a trouvé réponse. Il semble que l'agence de la TMB a été réouverte et donc elle travaille normalement. Mmh. Et donc toute la question de PPL mobile pose toute la question du M-Pesa, pose toute la question de tout ce qu'on appelle les portefeuilles électroniques. Les portefeuilles électroniques ont ceci de particulier, c'est que à la fin, il faudrait bien que le dernier kilomètre soit servi. Il faut que quelqu'un ait du cash pour vous le donner.
Ouais.
Il y a deux manières de résoudre la question. La première, c'est que les achats soient faits en grande partie à monnaie électronique. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'accéder au cash. La deuxième, c'est qu'on ait un réseau suffisant des gens capables de vous donner de l'argent. Et j'ai ici donné une illustration, c'est Western Union. Ils se sont débrouillés pour être en mesure de déployer des points de présence, pour être en mesure, et ça coûte très cher, de pouvoir servir le dernier kilomètre du cash. Mmh. Et moi, je voudrais dire simplement que ça a été subi par le système bancaire commercial. Il est important maintenant qu'on fasse une évaluation et que l'État se pose la question de savoir si la banque centrale ne devrait pas développer son propre porte-monnaie électronique, et ça existe hein, dans beaucoup d'autres
pays. Mais ici, on l'a pas encore.
On ne l'a pas encore. Et ça pourrait permettre que lui, l'État, paye les agents. Maintenant, entre le porte-monnaie électronique de la banque centrale et toutes les banques vont se battre pour être en mesure de rendre service parce que l'argent n'est pas donné d'avance. Aujourd'hui, si on t'a donné 200 000 employés à payer, tu as 600 000 dollars cash reçu à l'avance que tu rendes un service de qualité ou pas. Mais si demain les gens doivent d'abord payer pour accéder à cet argent, ils vont améliorer la qualité de leur service. Malonga parle de la bancarisation. Moi, je dis encore une fois qu'il y a une question d'intelligence collective. Chaque chose, quand elle arrive, il faut la penser à un moment donné, il faut l'évaluer pour être en mesure de savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché.
Vous êtes agent de l'État à Bandunduville, mais vous devez être payé à Kikwit.
Ça n'a aucun sens, justement.
Ça n'a pas de sens.
Si, et ça peut se faire d'ailleurs que vous êtes à Bandunduville, mais que pour une raison ou une autre, vous êtes en congé à Lubumbashi. Il faudrait que vous soyez en mesure d'accéder à votre argent.
Bien sûr.
Aujourd'hui, avec la dématérialisation, il est illogique que la présence physique, que la présence à un endroit particulier soit la condition pour accéder à son argent. L'argent a été dématérialisé. Et donc, il est important que de manière globale, l'intelligence technique soit appliquée à ce flux financier qui va de l'État aux banques commerciales et des banques commerciales vers les agents de l'État. Et donc, il est important que on soit en mesure d'aller dans ce qu'on appelle open data. Ça veut dire qu'en fait, la base de données positives doit être détenue par l'agent payeur qui est l'État, qui est donc la banque centrale. Et les banques commerciales et tous les différents canaux de paiement qu'ils ont doivent servir à pouvoir aller retirer de l'argent sur la base de données de la banque centrale pour être en mesure de payer les gens. Ça fera en sorte que la dynamique change. les prestataires de services vont se battre pour accéder à cet argent. Vous allez voir qu'il va se développer de nouvelles solutions pour être en mesure de donner du service aux gens, pour être en mesure d'accéder à cet argent. Aujourd'hui, les banques commerciales sont assises sur de l'argent qu'on leur donne à l'avance, quelle que soit la qualité du service.
Non, il n'y a rien, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien.
Oui. Et alors moi je dis une chose simple, c'est que...
Mais est-ce qu'il n'y a pas des inspecteurs de la Banque Centrale qui font les tours et qui vont constater comment les choses
se passent? On n'a pas besoin d'inspecteurs, ça se voit partout. Je vous dis que moi ça m'amuse de prendre des photos et de les publier.
De les publier régulièrement.
Et moi je dis, Visa et Mastercard montrent quelque chose de très particulier. Que tu sois aux États-Unis, au Venezuela, au Cambodge...
Partout.
Si tu as une carte Visa ou Mastercard, tu entreras dans les distributeurs de toutes les banques du monde et tu pourras retirer de l'argent. Et ça, l'État congolais est capable de le faire. Il est capable de faire une carte privative congolaise qui a accès à tous les points de présence où on peut vous donner de l'argent sur les terminaux et sur les distributeurs automatiques. C'est de la technologie pure et simple. Elle n'est pas compliquée à mettre en place. Il faut juste y penser. Mmh. Et ça m'amène à Justin Kalaba qui dit, il y a un militaire qui est décédé et paix à son âme, c'est honteux d'entendre ce genre de choses.
Oui.
Mais un militaire qui passe une semaine à vouloir venir retirer son argent, c'est un militaire qui est absent à son poste de travail. Et c'est dramatique. L'État devrait être en mesure de se réveiller, ne serait-ce que pour cet aspect des choses.
Il y a même certains qui font des scandales. Il a fait des tours.
J'ai vu une photo d'un monsieur qui s'est déshabillé. J'ai vu la photo de ce monsieur adulte qui s'est déshabillé. Mais en fait, quand vous voyez quelqu'un qui en arrive là, ça veut dire il est dépassé.
Et
ça, encore une fois, on ne peut pas rester indifférent face à ce genre de choses. Moi, je voudrais simplement dire que le temps perdu dans les banques pour accéder à de l'argent, c'est du temps de non-productivité sur le poste de travail. Rien que cet aspect des choses devrait intéresser l'État congolais. J'espère beaucoup que Madame la Première Ministre aura écho de cette émission
et qu'elle
demandera en ce moment-là un audit de la situation et peut-être qu'une concertation est nécessaire. Un peu de technologie et un peu de bon sens dans l'organisation des flux, mais cette affaire peut être réglée très rapidement. Et je voudrais revenir à Roger Mayala qui dit « ça prend 5 à 10 jours pour être payé ». Mais moi j'ai juste peur de ce que cela pèse comme non-compétitivité des agents qui perdent chaque mois 5 à 10 jours pour être payés pour une raison ou une autre. Ça montre clairement qu'on est en train de payer des gens pour rien. Parce que si quelqu'un peut se permettre d'être absent à son poste de travail pendant 5-10 jours, il y a un problème. Si celui qui est censé l'employer ne s'aperçoit pas que quelque chose est en train de manquer dans le parcours des services rendus aux citoyens. Elvis de Kinshasa parle du Sankuru et chaque fois qu'on parle du Sankuru, moi j'ai juste envie de passer un message. Pendant qu'on se bat ici pour un carburant qui coûte 1.2, 1.3, alors qu'il devrait coûter 2$ et les gens devraient être en mesure de pouvoir le payer, au Sankuru, le carburant coûte 5$ le litre.
Nous
sommes dans le même pays. Et là-bas, les gens sont moins riches qu'ici. Alors je me pose la question de savoir pourquoi l'État est tant irresponsable vis-à-vis des gens qui sont les plus fragiles. Et je crois simplement que sur la question du carburant, comme sur d'autres, il est important que nous ayons ce qu'on appelle l'équité. Maintenant, je passe. Sankuru, Lodja, Lumumbavi,
Wembonyama
et tout le reste, Caritas, à ses risques et périls, circule du cash pour y faire arriver de l'argent pour payer les gens. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout l'argent qui arrive dans cet environnement, dans le mois, repart. Et c'est pour ça que le mois suivant, on doit encore faire venir du cash. Et dans le mois, il repart. Pourquoi l'intelligence économique n'est pas capable de déterminer qu'est-ce que les gens achètent en dehors du territoire de Sankuru qui oblige que leur argent ressorte? Parce que si l'argent qui arrivait restait et alimentait l'économie domestique, on n'aurait pas eu besoin de faire venir de l'argent de manière permanente. Ça ressemble beaucoup à l'échelle du pays, à ces devises en dollars que nous importons de l'extérieur de manière complètement illimitée, sans nous poser la question de savoir ça finit où. Ça alimente le marché noir, ça alimente le banditisme économique, ça alimente la criminalité financière. Et au niveau national, comme au niveau du Sankuru, il est important qu'on se pose des questions. PPL Mobile ou tout autre mobile money, c'est la même chose. Comme je le disais, La situation actuelle est intenable, elle ne marche pas. Il est important que l'on crée les états généraux de la paie de fonctionnaires de l'État, qu'on étudie complètement.
Après,
oui, bien sûr, ça vaut la peine. Il faut s'arrêter et étudier complètement le problème. En écoutant les uns et les autres, on va résoudre le problème de manière globale. Et l'une des solutions, c'est de déployer l'équivalent de la Visa Mastercard, mais en privatif. Comme je le disais tout à l'heure, une carte qui peut fonctionner sur toutes les banques. C'est juste une question d'organisation. D'autant plus d'ailleurs qu'il y a un service qui est payé. Il y a $3 par fonctionnaire payé qui sont
oui,
là.
C'est beaucoup d'argent.
Et donc, c'est suffisamment d'argent pour être en mesure de pouvoir financer la plateforme et être en mesure de financer l'acquisition de la carte. Et je crois que aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, il faut s'arrêter et réfléchir.
Mais malgré la bancarisation, il y a toujours des fictifs qui se font payer. Comment expliquer tout cela?
La bancarisation est une première étape. La deuxième étape, c'est l'authentification de la personne que vous payez. Si la base de données a été faite avec un élément de différenciation qui est le numéro matricule, si ce n'est pas quelque chose comme l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, il est facile de pouvoir payer quelqu'un d'autre à la place de celui qui est censé être payé. L'autre chose qui doit être faite, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de doublons, des gens qui sont payés 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois.
Oui.
Encore une fois, l'informatique résout la question. Et je n'ai jamais compris pourquoi ça prend autant de temps pour être fait. Et aujourd'hui, on a une base de données de la CENI, on a une base de données des banques, on a une base de données de la santé. Dans tous les pays du monde, c'est la même base de données. Un citoyen a un numéro unique avec lequel il circule partout. C'est simple, ça se passe dans le monde entier, c'est intelligent, on peut copier ça. Il y a certains pays où les banques se sont dit « non, l'État est trop faible ». Ils ont créé ce qu'on appelle le numéro d'identité bancaire. Ça veut dire que vous alliez dans une banque ou dans une autre, c'est le même numéro.
C'est
que
le
vous
même
avez.
Numéro.
C'est-à-dire vous êtes identifié avec le même identifiant.
Mmh.
Et ça permet de s'assurer que la fraude identitaire n'est pas facile à mettre en place. Encore une fois, juste l'intelligence collective. Se mettre ensemble et résoudre des problèmes. Le drame de notre pays, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ce qu'ils ne connaissent pas n'existe pas.
Ah, voilà. Donc, Alki Tengue, un appel à l'organisation des états des lieux.
Faire
un
état
des
lieux.
Des états généraux, voilà. Évaluer un peu comment ce système a fonctionné.
Et inventer une solution qui marche.
Qui marche. Et éviter surtout l'attroupement, l'affluence des fonctionnaires de l'État, des retraités.
C'est des pertes de temps
ouais.
des personnes qui sont censées être à un poste de travail ou en train de se reposer. Et c'est totalement inacceptable.
C'est inacceptable.
Ouais. Godet... Et on a la même situation dans la paye des retraités. Hein.
Oui.
Quand la CNSS doit pouvoir les payer, c'est exactement le même exercice.
Vous trouvez ces mamans assises là-bas,
tout simplement,
sous le soleil.
Et alors que c'est quelque chose qui, technologiquement parlant, peut être organisé.
Bien, on va accueillir Godet Kidiongo de Kikwit. Bonjour Godet.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité. Vraiment, moi, l'émission me fait vraiment un sentiment un peu excellent. Vraiment, je suis victime de mon grand frère qui était décédé à l'Ecobank vers l'année 2024, au mois de février. Vraiment, monsieur le journaliste, mon grand-père était succombé comme ça, avec un engouement à l'Ecobank.
Oh là là, vous parlez du grand-père ou du grand-frère? Allô, Godet? Il n'est plus en ligne, dommage. Il racontait l'histoire de son grand-frère qui a perdu la vie à cause de l'engouement au niveau de la banque. Sûrement, il avait passé toute une journée et après, bon, voilà, il n'a pas survécu. Alki Tengue, c'est des choses
c'est des brise-cœurs et vous vous entendez, les morts d'hommes qui reviennent de manière assez régulière, ça montre que la situation est catastrophique, ça devrait interpeller n'importe quelle conscience. Et comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il est temps qu'on s'arrête, qu'on évalue la situation de fond en comble, qu'on écoute toutes les parties, qu'on sorte là-dedans avec une solution intelligente, collective, qui a été pensée, qui peut résoudre les problèmes de manière intégrée.
Un instant, on me fait signe que Godet est là. Oui. Godet, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Oui, allez-y, vous parlez de votre grand frère qui a perdu la vie à la banque à cause d'une bousculade.
Oui, mais c'est journaliste, effectivement. Je ne sais pas si Maître Omar peut m'aider. Il était secoué en Gouéma à l'Ecobank. vraiment, il était décédé, amené à l'hôpital général, il est décédé à cause de l'engouement. Les policiers ont fait pousser, les agents ont marché sur lui, amené à l'hôpital, il est décédé. Vraiment, monsieur le journaliste, il y a un instant, ne va pas à la ville de Kikwit, à ce qui concerne le paiement. Vraiment, est-ce que le gouvernement ne peut pas créer les sous-banques dans des communes et dans des quartiers pour diminuer l'engouement à l'écobanque? J'ai des questions à poser à l'invité. Puisque, qu'est-ce qui signifie d'abord que nous racontons dans notre banque? Qu'est-ce qui signifie qu'il n'y a pas de connexion ou pas de signal? Qu'est-ce qui signifie donc ça dans les banques de l'État? Deuxième préoccupation, est-ce que l'invité peut nous répondre à la coupure des salaires? C'est lié à quoi? À la liste donc, les banques coupent l'argent. Vous voyez à listing 250. Arrivez donc à mettre comme ça, on vous donne 230 ou 240. Ces 10 000 là, ça part de où? L'invité aura de nous répondre. On coupe une somme de 10 000, 30 000, mais à listing, on vous paye 250 francs congolais.
Oui.
Est-ce que c'est dit à quoi l'invité aura de temps de me répondre?
Merci Godé, Kidiongo de Kikwit, Al Kitenge.
Il a posé deux questions, il a demandé qu'on décentralise le système bancaire, et la meilleure manière de décentraliser la présence bancaire, c'est d'avoir la poste bancaire.
Oui.
L'État devrait être en mesure d'avoir des services financiers dans les postes, que ce soit de manière directe ou indirecte, ça permettrait justement que partout où il y a une poste, et il y a des bureaux de poste quasiment partout, nous puissions avoir des services avancés, soit d'une banque commerciale ou d'un réseau de banques commerciales, pour être en mesure de s'approcher des citoyens. Mais par contre, il pose deux questions. La première est une question technique, la connexion. C'est en fait la capacité de l'agent qui est en face de vous, avec son ordinateur, d'interroger la base de données qui contient les informations de votre argent. Si la connexion, qui peut être une connexion local ou une connexion internet n'est pas en place, il est impossible pour la personne qui est en face de vous de pouvoir faire les opérations. La seule chose que je sais, c'est que certaines banques, quand elles n'ont pas de cash, elles se cachent derrière le fait qu'il n'y a pas de connexion. En fait, c'est un gros mensonge pour éviter d'assumer la responsabilité. Vous dites il n'y a pas de connexion. Et s'il n'y a pas de connexion, en réalité, vous ne pouvez pas vous en prendre à eux.
Oui.
Alors qu'en réalité, la question réelle, c'est la question de la disponibilité du cash dans l'agence. La coupure des salaires, à ma connaissance, l'État prend en charge la transaction qui est faite en faveur de l'agent. Maintenant, si vous êtes agent, vous êtes client dans une banque et que vous avez un statut de client, il y a des conditions qui vous lient à la banque. Et ces conditions vous sont données à l'avance lorsque vous signez les papiers d'ouverture de compte. On vous dit, vous allez avoir des retenues de compte chaque mois.
Mais souvent, les gens ne lisent pas.
Les gens ne lisent pas, oui.
Bien, Al Kitenge, économiste et stratège, merci.
Merci beaucoup.
Et à la prochaine.
Oui.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. Pierre Diassino a été à la mise en onde. Tati Mapuku a assuré la coordination. La réalisation a été assurée par Feza Bongonda. Au micro, jeudi, Daniel Kachama. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Et à la prochaine.